Plan Large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan Large après Godard, toujours Godard, avec Antoine Debecq, David Farou, Sergueï Losnitsa et Charlotte Garçon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Alors voilà, Jean-Luc Godard n'est plus là. Mardi matin, à l'aube, il a mis un carton fin de cinéma, comme il l'avait monté en 1967 à la fin de Weekend. Et tout d'un coup, celui qui voulait être toujours à l'avant-garde, non seulement du cinéma, mais de l'art en général, amener le cinéma à ce qu'il pourrait être, oser affirmer toute sa vie ce qu'il devrait être, pour reprendre les mots en 2006, de Nicole Brenez et Michael Witt, Jean-Luc Godard n'est plus notre contemporain. Reste l'œuvre de son film, réalisé en 65 ans, dont on veut croire qu'elle reste toujours aussi vivante, stimulante, dérangeante et énervante au meilleur sens du mot. Alors oui, le cinéma est en deuil de Jean-Luc Godard. Avec lui, disparaît la source d'une certaine beauté, pour paraphraser le cinéaste iranien et frais centenaire Ebrahim Golestan dans ce drôle de dialogue impossible et pourtant fécond qu'est un vendredi Robinson de Mitra Farahani, ce film si beau et mélancolique, sorti en salle mercredi au lendemain du départ de l'artiste. Mais la beauté ne disparaît pas, elle circule, rajoutait-il encore. On a souvent parlé de Jean-Luc Godard et de son œuvre, évidemment, dans Plan Large, mais il fallait bien sûr qu'on y revienne, pas sous la forme d'un éloge funèbre, on n'en a pas le goût, ni d'une révision posthume de son œuvre, il faudrait y consacrer l'année. On voudrait bien, en revanche, se demander où on en est avec Godard, comment, depuis mardi, il se conjugue encore au présent et peut-être même au futur. Deux spécialistes du cinéaste venus déjà converser ici dans notre série godardienne de la saison 2019-2020 de Plan Large vont nous y aider. Son biographe, le critique et historien Antoine Debecq et David Farou, l'auteur de Godard, invention d'un cinéma politique. Avec eux, Charlotte Garçon, qui en fin d'émission nous dira, en chroniquant le livre La seconde femme de Muriel Joudet, ce que les actrices font à la vieillesse. Auparavant, nous aurons entendu le grand cinéaste ukrainien Sergueï Losnitsa, prix France Culture Consécration cette année, nous expliquer la façon très godardienne dont il racontait dans Babillard Contexte le massacre de 33 771 juifs dans les faubourgs de Kiev en 1941. Mais pour l'heure, on commence par la fin d'un début. On est en 1959 sur les pavés de la rue Campagne Première à Paris.
Vraiment dégueulasse.
Et oui, c'est dégueulasse, même si depuis 63 ans, on se demande, comme Patricia Jean-Seberg dans À bout de souffle, c'est quoi dégueulasse. Antoine de Beck, vous concluiez votre biographie de Jean-Luc Godard, publiée en 2010, par ces deux phrases. À 30 ans comme à 80, l'âge donc qu'il avait à l'époque, Jean-Luc Godard fut et reste un homme du présent. Il est notre contemporain, son cinéma dure encore. Et vous parliez encore dans un texte, une tribune publiée hier dans Le Monde, de sa volonté constante, voire jusqu'au boutiste et touchante, d'être contemporain. Comment penser Jean-Luc Godard au présent, aujourd'hui, Antoine de Beck?
C'est d'abord prendre la mesure de l'absence. C'est donc ce n'est pas si mal que Godard, la disparition de Godard oblige à se repencher sur ses 65 ans de films, de sûr. Après, ce qui reste de Godard aujourd'hui, d'abord on ne le mesure pas forcément, c'est-à-dire que Godard, dans sa volonté de partir, voilà, avec par suicide assisté, il est parti quand il a voulu. On peut penser que c'est, je pense profondément, c'est parce que c'était le moment où la limite à laquelle il allait se sentir dépendant des autres. Godard est vraiment un forcené de l'indépendance, de la maîtrise de son monde, de son corps, de son cinéma, des financements de son cinéma. Voilà, il ne faut pas oublier qu'il a constitué chez lui une sorte de studio Godard extrêmement perfectionné pour faire du cinéma tout seul. Donc Godard
qu'il mettait en scène, y compris dans ses apparitions.
Godard, je pense, a été jusqu'à la limite de ce qu'il sentait. Le moment où ça allait lui échapper, voilà, et il ne voulait pas aller là, vers une sorte de dette, de dépendance. Mais s'il l'a fait sciemment maintenant, c'est peut-être aussi qu'il laisse quelque chose, peut-être un film, on ne sait pas, peut-être un livre, peut-être, voilà, il est parti aussi en laissant peut-être un héritage, quelque chose qui... Et puis, de toute façon, il a laissé quelque chose qu'on va découvrir maintenant qu'il est mort, ce sont ses archives. Il y a 10 ans, Vincent Maraval, pour Wild Bunch, a acheté assez cher à Godard 40 ans d'archives, qui sont une chose absolument, une sorte de trésor magnifique, inestimable. On sait que ces archives, elles sont dans un grand hangar du Cantal depuis ce temps-là.
Qui a été visité par France Culture,
voilà,
dans une émission assez extraordinaire.
Et qui a été aussi visité par un photographe, Stéphane Krasnansky, qui en a fait un livre absolument magnifique. Et donc ces archives, elles vont s'ouvrir. C'est évidemment quelque chose qui... Et c'est ça va sans doute donner une œuvre. Je pense que Godard a peut-être laissé des indications pour la manière dont de les présenter, peut-être une exposition, on ne sait pas. Ouais, je pense que avec notamment aussi Nicole Brenez, qui était très proche de Godard, il y a peut-être déjà une œuvre qui peut naître de la mort de Godard. Et puis ça va ouvrir aussi je dirais la voie pour tous les travaux, toute la recherche, voilà, à la fois les jeunes chercheurs et puis ceux qui s'intéressent à Godard, ce qui dépasse largement peut-être la recherche institutionnelle, académique. Voilà, on a un trésor qui peut alimenter à la fois la connaissance de Godard et pourquoi pas le futur de Godard qui s'ouvre là. C'est donc aussi une sorte de la mort de Godard, c'est aussi, j'allais dire, l'ouverture vers un futur. Il me semble que c'est important et qu'il a voulu cela.
David Farou, vous qui avez beaucoup travaillé votre Godard, j'ai cité ce livre sur la dimension, le Godard politique, le Godard des années 70. Est-ce que ces archives, précisément, est-ce que maintenant on va pouvoir non seulement creuser plus encore Godard, mais le découvrir autrement?
Ça, je ne doute pas que les archives vont nous révéler plein d'aspects qu'on ne soupçonnait pas ou qu'on soupçonnait pas comme ça ou qu'on ignorait. C'est trop difficile à anticiper vu d'aujourd'hui, parce que le moment est encore délicat. On est dans un entre-deux où c'est en même temps trop tôt et trop tard pour parler. On est dans l'émotion. C'est difficile de pas penser aux proches de Godard, à Anne-Marie Miéville, à Paul Grivas, à Jean-Paul Battaglia, à Fabrice Arragnaud, à Nicole Brenez, qui l'ont entouré dans la vie et le travail ces derniers temps, et pour qui ça doit être un sacré difficile moment à traverser. Et du point de vue de l'œuvre, pour l'instant, on est encore dans un moment très dominé par le déluge médiatique où l'écume mélange des anecdotes parfois passionnantes mais aussi très souvent insignifiantes, ou des caricatures ou des éloges qui sont aussi parfois confus, des attaques aussi parfois calomnieuses, y compris jusqu'à l'ignoble, et issues de ragotages de deuxième ou de troisième main. Donc dans ce moment-là, c'est difficile de retrouver déjà le recul pour se demander comment on va retravailler l'œuvre. Mais il me semble que ce qui est encore difficilement calculable dans ce que ça va changer, c'est que il n'y aura plus de nouvelle œuvre liée à la contemporanéité pour nous déconcerter. Et là, je repense par exemple à l'effet très déconcertant, largement déconcertant, qu'avait produit Adieu au langage, son film en stéréoscopie, en 3D, c'était en 2014, je crois, où finalement il déplaçait tellement l'enjeu technique de la 3D pour revenir à quelque chose de beaucoup plus central sur le cinéma, sur le passage du cinéma à la 3D et au numérique, tout en creusant la singularité de son sillon qui nous dessillait là où on ne s'y attendait pas. Et on tentait d'apprivoiser ce nouvel ovni en y voyant une des bifurcations qui accompagnait celle d'une vie, la sienne. Et d'ailleurs, si je peux faire une parenthèse là-dessus, peut-être que plus que dans d'autres œuvres qui prennent davantage d'autonomie par rapport à leur auteur, d'où la place importante prise par les propos et entretiens autour de l'œuvre, qui dans le cas de Godard en font peut-être même partie. Et en tout cas, même si ça a toujours été avec sincérité, il a contribué, en le nourrissant abondamment, à l'écran de folklore de son image qui s'interpose devant son travail, et qu'il disait en même temps souvent regretter, en réclamant qu'on regarde les films. En le regardant de plus près, Adieu au langage nous parlait du cinéma en opposant autour de la même histoire incarnée par des comédiens différents et dont on ne voyait pas les mêmes moments, une partie qui traite le réel, une autre qui traite la métaphore, et que le cinéma est quelque part entre les deux de ça.
Comment les apparitions précisément de Godard participent de l'œuvre? On va en écouter un exemple, c'est un extrait des morceaux de conversation avec Jean-Luc Godard. Alors, ça avait été filmé, rassemblé par Alain Fleischer, c'était en 2004 au Frénois, quand se préparait une exposition fameuse parce qu'elle n'a pas vraiment existé, qui devait s'appeler Collège de France, qui s'appellera Voyage en Utopie, dont il va exposer les décombres d'une exposition à venir au Centre Pompidou à Paris. Alors cette conversation, c'est avec, précisément, on vient de parler d'elle, avec Nicole Brenez, qui est à la fois chercheuse, archéologue et pirate. Archéologue, c'est comme ça qu'elle était présentée dans le générique du livre d'images auquel elle avait contribué. Et donc Nicole Brenez lui montre plusieurs films. Elle lui montre un film de 1968 qui s'appelle Film Tract, avec cette couleur rouge qui coule sur l'écran, qu'il avait fait avec Gérard Fromanger. Elle lui propose l'interview d'un jeune Mozambicain qui se rappelle la venue de Godard en 1978 au Mozambique pour aider à la création d'une télévision nationale. Et puis elle lui montre aussi les images d'un cinéaste d'avant-garde canadien. Il y a vraiment que Nicole Brenez pour retrouver ces images-là, qui s'appelle Al Razoutis, qui fait à l'époque une série qui s'appelle Visual Essays Origins of Film, qui mène sans le savoir et en même temps que Godard une exploration proche de ces histoires du cinéma. Alors elle lui montre tout ça, réaction de Jean-Luc Godard à ses propositions.
Par rapport au premier film qu'on a vu avec de Fromanger, je trouve c'est très 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 différent, parce que le film de Fromanger quand même vient d'une idée et d'un scénario, si j'ose dire, même si le scénario n'est qu'une idée du rouge qui se répand, mais on met du sens dedans, et ça a du sens. Là, il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens qui vient, dans le film de Fromanger et de moi, puisqu'il dit qu'il est de moi aussi, il y a du sens, et même si on ne parle pas à l'intérieur de soi, on se fait du sens, on dit c'est le rouge, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, c'est très beau, c'est magnifique. Là, c'est à l'état brut et sauvage, si vous voulez, c'est très, ça me semble le contraire presque. Et s'il avait fallu montrer au Mozambique l'un ou l'autre, et que on leur avait dit, comment est-ce qu'il s'appelle?
Al Razutis.
On leur avait dit, bon ben pour votre télévision, mes amis mozambicains, prenez modèle sur Al Razutis. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de télévisions qui accepteraient de prendre ça comme modèle.
Ce serait bien.
On peut toujours rêver, oui.
On ne le dit pas assez, Godard était souvent très drôle, et ce qu'on a, ce qu'on sent ici, et vous le rappelez Antoine de Beck dans votre texte du Monde, c'est cette idée d'une pensée qui prend forme, d'une forme qui pense, c'est ce qui apparaissait sur le visage de Rossellini dans un épisode des Histoires du cinéma, c'est-à-dire que Godard va assembler des idées comme on assemblerait des images au montage, en se disant qu'il y a bien quelque chose qui va en sortir. Alors parfois c'est fulgurant, parfois il se plante, mais l'expérience est là toujours en direct quand on écoute Godard parler dans ce genre d'intervention.
Oui, c'est ce qu'il a appelé l'expérience des étincelles, en prenant référence sur le poète Reverdy, qui avait écrit un très beau texte sur l'importance de rapprocher des choses qui sont extrêmement différentes. Voilà, et donc c'est dans ce rapprocher de choses très différentes que tout d'un coup du sens naît, une étincelle. Et donc Godard fonctionne comme ça. C'est dire on va appeler ça du montage, hein, tout simplement. Il est peut-être le cinéaste qui a pris le plus au sérieux ce qui n'appartient qu'au cinéma, qui est le montage, et il en a fait une sorte de modèle, je dirais presque épistémologique, hein, dont tout le monde a pu s'emparer. C'est ça aussi peut-être le destin, le futur de Godard, c'est-à-dire qu'il a donné des outils dans tous ses films, dans ses interventions, et ses outils, exactement comme Godard se considérait comme un pirate, un voleur d'images, un voleur d'idées, un voleur de mots, hein, il n'a cessé dans ses films d'emprunter, de voler aux autres des images qu'il a rapprochées avec d'autres. Eh bien, on peut faire à partir de Godard le même travail. C'est-à-dire que je pense que le destin de Godard, il est moins sur la copie, le modèle, c'est-à-dire qui va s'affronter à Godard, ce serait, je dirais, suicidaire. Non, là où Godard a ouvert quelque chose, c'est ses outils, hein, ses méthodes, ses manières de penser, en rapprochant comme ça des choses qu'il a récupérées, un peu comme un chineur, comme un chiffonnier, comme un pirate. Et voilà, ça c'est une méthode qui à la fois iconoclaste, parce que c'est du vol, c'est du piratage. Et si les grandes sociétés américaines, les grandes sociétés de production et de distribution américaines avaient fait un procès à Godard pour ses Histoires du cinéma, il y a plusieurs dizaines de millions qui sont en jeu, hein, au niveau des droits. Mais voilà, c'est Godard, il peut faire ça. Et je pense que en faisant ça, lui, d'une part, il dit je suis pirate, donc allez-y, prenez-moi. Et Godard n'a jamais fait un procès, par exemple, pour plagiat ou pour emprunt. Il ouvre la porte et il dit et c'est sa générosité de dire voilà tout ce que j'ai fait c'est à vous, prenez-le et puis refaites-le, non pas refaites-le mais refaites-le autrement, remontez-le à votre façon. Donc voilà, ça c'est ça fait partie de la générosité de Godard, cette manière d'avoir constitué une boîte méthodologique, une boîte à outils et de l'ouvrir et à vous.
À vous de jouer. David Farou, c'est comme ça que vous présentez Godard à vos étudiants à l'école Louis Lumière, parce que il y a souvent un peu une peur de Godard, c'est-à-dire qu'on peut se laisser intimider par à la fois le personnage, le discours, la monumentale filmographie, mais il faut peut-être simplement y rentrer comme ça, y rentrer comme dans une vaste fabrique de boîtes à idées dont il faut se servir.
Bien David sûr. Farou. Bien sûr, il faut commencer par se débarrasser de toute cette intimidation culturelle qui encombre l'accès à Godard et qui d'ailleurs très souvent repose sur un regard parfois superficiel uniquement sur les films du début des années 60, de sorte que maintenant que le travail va devenir non seulement plus largement possible mais nécessaire, il y a presque un moratoire à faire sur les années 60 et enfin se consacrer aux 55 années suivantes plus sérieusement. Parmi les tâches dont je n'arrive pas à prendre la mesure à ce jour, au-delà même de la seule question des archives qu'évoquait Antoine de Bach, il y a simplement d'arriver à compléter la filmographie de Godard, ce à quoi Nicole Brenez a travaillé d'arrache-pied depuis des années, et c'est pas fini. Cette semaine, on a encore retrouvé une pub qu'on ne connaissait pas, de 88. Bref, il y a déjà un travail considérable pour essayer de faire l'inventaire de cet héritage, puisque maintenant c'est un héritage. Et aussi d'essayer de, en se débarrassant de cette intimidation culturelle, d'entretenir un rapport beaucoup plus concret, plus pratique à l'usage des cinéastes d'abord, des réalisatrices et réalisateurs, des techniciennes et techniciens qui peuvent toutes et tous y trouver leur miel pour orienter leur propre pratique. À partir de ce geste constant quand même, qui est de hisser son regard à la hauteur de l'histoire de l'art du cinéma et à la hauteur de l'histoire des arts. C'est ça quand même le fil conducteur qui donne une hauteur de vue et une grandeur à cette œuvre tout du long, y compris dans les moments où la tentation est forte de faire prévaloir un utilitarisme politique. C'est jamais au détriment de cette hauteur de vue à l'échelle de l'art du cinéma.
Alors une réalisatrice qui s'est emparée justement de la question Godard, c'est Mitra Farahani. Alors elle le fait avec un vénérable centenaire, grande figure du cinéma de la nouvelle vague iranienne, c'est Ebrahim Golestan. Le film s'appelle « À vendredi, Robinson ». Il est sorti hier. Ça sens aussi de la contemporanéité de Godard. C'était au lendemain de la mort du cinéaste. C'est dans les salles françaises. On va en écouter un extrait. Ça se passe juste après un autre extrait qui est dans le film de JLG, JLG Autoportrait de décembre, où Godard parlait de porter son propre deuil avant sa mort.
Alors je me souviens, mon cher Golestan, que vous aviez été pas content que j'emploie le mot rédemption. Ça c'est pas moi, c'est Moutner. Je me souviens aussi d'une phrase de Bazin qui disait, je crois, la perspective a été le péché de la peinture occidentale et Niepce et Lumière, c'est-à-dire le cinéma, en ont été les rédempteurs. Donc voilà ce que faisait. Mais tout ça, c'est la langue. C'est la voix qui parle la langue. Ça n'a rien à faire avec le langage qui, lui, est un espèce d'ensemble image-parole. Or, pourquoi la mort volontaire c'est la mort sagement désespérée, volontaire. c'est que la langue devrait arriver à... On y arrive peut-être en ce moment un petit peu, arriver à se suicider, c'est-à-dire à dire n'importe quoi.
Vous écoutez France Culture, Plan Large, après Godard, toujours Godard, avec Antoine Debecq, David Farou et Charlotte Garçon. La langue devrait arriver à se suicider, c'est-à-dire à dire n'importe quoi. Alors évidemment, c'est facile et rapide de dire que Godard disait n'importe quoi. On sait que c'est une vieille et très ancienne réflexion de Godard sur la langue opposée au langage qui est parole et image. Ce que dit aussi Ebrahim Golestan dans ce film, c'est que Godard est joueur. Il le dit savamment, sciemment, avec sagesse. Il est joueur de manière avisée. Et finalement, en voyant ce film, je me suis dit que ce qu'on pouvait retenir aussi de Godard, et sûrement d'autant plus parce qu'il est rare, c'est son sourire. Et ce qu'il provoque en nous, qui va nous rester un bon moment, Antoine Debecq.
Je pense que vous avez raison. voilà, Godard pouvait être des apparences, des hommes très différents, en fait. Il pouvait, d'un moment à l'autre, d'ailleurs, passer d'une sorte de mou terrible qui vous fracassait comme ça, qui vous humiliait jusqu'à un sourire magnifique. C'est Agnès Varda qui disait qu'elle avait jamais vu un aussi beau regard et un aussi beau sourire que ceux de Godard. Donc, c'est tout à fait juste. Je pense que il y a d'ailleurs chez Godard tout au long de son œuvre un jeu sur le rire qui peut être parfois extrêmement grotesque, farcesque, et qui peut à d'autres moments être beaucoup plus celui d'une sorte de sourire du chat d'Alice comme ça, hein. Et Godard a toujours été aussi un séducteur, hein. Et c'est cette façon de pouvoir comme ça éclairer son visage d'un sourire après avoir tellement inquiété qui est d'une certaine façon fait que on pouvait tout lui pardonner.
Mais combien, oh, combien de sanglots pour un air de guitare? Ce qui va surgir vient des temps anciens.
Merci Antoine Debecq et David Farou. On n'en a toujours pas fini avec Jean-Luc Godard. On va peut-être s'en reparler dans quelques années. En attendant, la biographie, votre biographie, Antoine Debecq, c'est chez Grasset. On attend une réédition augmentée d'un tout dernier chapitre quand vous serez plongé dans les archives, même si vous êtes fort occupé en ce moment, par celle que vous consacrez au dernier des ex-jeunes turcs qui manquait à votre tableau de chasse, on peut le dire. Ça sera Jacques Rivette. Quant à Godard, invention d'un cinéma politique, David Farou, c'est aux Prairies ordinaires. Et puis on renvoie naturellement nos auditrices et auditeurs aux trois épisodes que nous avions consacrés dans Plan Large avec vous et d'autres aux années 60, 70 et 80 du cinéaste suisse, ainsi qu'à toutes les émissions très nombreuses de France Culture que vous retrouverez sur la page d'accueil de notre site internet, dont la visite par l'équipe de l'atelier dans le hangar de ces archives. Et puis pour voir et revoir les films de Jean-Luc Godard, sachez que notre partenaire la Cinéthèque en propose une bonne quarantaine, tout format confondu, que dès mercredi prochain, la Maison du Lac en proposera plusieurs sur grand écran, le tout en attendant l'installation de son livre d'images à la Ménagerie de Verre, comme il l'avait fait aux Amandiers de Nanterre. Ça sera du 22 novembre au 16 décembre. Charlotte Garçon, vous restez avec nous, on vous réentendra en fin d'émission, mais pour l'heure on part à la rencontre du grand cinéaste ukrainien Sergueï Losnitsa, qui a reçu au dernier Festival de Cannes le prix France Culture Cinéma Consécration. Alors il est connu pour ses films de fiction, dont le dernier en date Donbass, ou ses documentaires comme Maïdan en 2014, sur ce qui se passe de plus contemporain dans son pays. Mais le cinéaste mène aussi depuis de longues années une réflexion sous forme de remontage d'images d'archives sans commentaires sur les conflits en Europe au XXe siècle et la logique de la barbarie. Le dernier en date, l'histoire naturelle de la destruction, s'attache au bombardement de masse de civils pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais le film qui est sorti mercredi, Babillard Contexte, traite lui d'un moment particulier et particulièrement horrible de ce conflit, le massacre perpétré les 28 et 29 septembre 1941 dans le ravin de Babillard, c'est dans les faubourgs de Kiev, quand les occupants nazis, aidés de collaborateurs locaux, ont assassiné 33 771 juifs avant d'en effacer les traces. Un crime, le plus grand massacre de ce qu'on a appelé la Shoah par balle, dont la mémoire même fut effacée ensuite par les autorités soviétiques qui dissimulaient la judéité des victimes, avec un sens inouï du montage et une réflexion profonde sur les images manquantes de ce massacre, alors qu'il rappelle évidemment la fameuse querelle des images qui avait opposé Jean-Luc Godard et Claude Lanzmann et d'autres au tournant du siècle. Sergueï Losnitsa propose un film éprouvant mais essentiel qui prend en outre un sens imprévu depuis que la guerre et ses atrocités sont revenus ravager son pays. Rencontre avec un grand cinéaste enregistré mardi matin, il faut le préciser, c'était d'abord dans la cour d'un hôtel alors qu'on venait d'apprendre la mort de Jean-Luc Godard, dont la présence orageuse n'allait pas tarder à se manifester. Bonjour Sergueï Losnitsa.
Bonjour.
On va parler évidemment dans un instant de Babillard Contexte, mais on a appris la mort de Jean-Luc Godard. Qu'est-ce que ça représente, Jean-Luc Godard, pour vous? Est-ce que c'est un cinéma avec lequel vous avez pu dialoguer, qui a pu, d'une manière ou d'une autre, vous influencer?
Pour moi, c'est une triste nouvelle parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression que les géants s'en vont. Et je me rappelle que Godard était venu dans notre école, là où j'ai fait mes études, le FGIC, la grande école de cinéma de Moscou, en 1990. Je me souviens qu'en fait tous les étudiants avaient été réunis dans la salle de spectacle et que dans cette salle de spectacle, sur la scène, il y avait une table qui était recouverte d'une drape rouge avec un vase avec des fleurs fanées dedans. Et je me souviens de l'écharpe de Jean-Luc Godard. Je me souviens effectivement quand il est entré dans la salle qu'il a été fort applaudi, qu'il avait fini par tirer sur sa cigarette, par s'asseoir et qu'il avait dit surtout enlevez-moi ce vase de là. Et je me souviens surtout de la première phrase qu'il avait dite, c'est bonjour, je suis vraiment ravi d'être ici, mais sachez que moi j'ai fait aucune école de cinéma, donc je vois pas du tout de quoi on pourrait parler avec vous aujourd'hui. Et pour moi, tout son cinéma, il est justement dans ce geste, dans cette phrase. Et c'est véritablement quelqu'un qui m'a beaucoup influencé et qui a laissé une marque sur moi. Mais c'est surtout la liberté, en fait, que j'ai retenue de lui, que je sens dans chacun de ses films. Donc c'est une très triste nouvelle.
La liberté, vous dites, Sergueï Losnitsa, y compris de s'emparer d'images qui ne sont pas les siennes pour faire son propre récit. Et ça recoupe toute une partie de votre travail qui, comme lui, interroge ce qui s'est passé au XXe siècle par des images qui ne sont pas les vôtres. Est-ce qu'une influence peut aussi passer par ça? Et comment est-ce que vous, vous envisagez la manière dont vous vous emparez d'images préexistantes?
Tout d'abord, ce ne sont pas les images de quelqu'un d'autre, ce sont toutes les miennes. Parce que c'est le principe même du cinéma, si vous voulez. Dès lors qu'on filme quelque chose, par définition, ce qu'il y a dans le champ, c'est que des choses qui ont été créées par quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est jamais par celui qui crée le film. Et donc, le monde est fait, en fait, de significations qui sont bien au-dessus de ce que je montre. C'est, si vous voulez, c'est une sorte de méta-niveau où les significations vont engendrer d'autres significations. Et lorsque je travaille sur des images d'archives, en fait, mon premier mouvement, c'est de déstructurer toutes les séquences telles qu'elles ont pu être montées auparavant, de manière à revenir à chacune des images et travailler sur celles-ci. Et pour moi, ça les débarrasse des connotations que les images voisines pourraient leur conférer, de manière à ce qu'elles ne puissent montrer que ce qu'il y a véritablement dans chacune des images. Ce qui veut donc dire qu'en fait, elles ne peuvent que nous amener à penser ce qui est montré dans chacune des images. Et quand je commence à ce moment-là à monter le film, c'est-à-dire à faire en sorte de voir comment les gens vont réfléchir sur chacune des images, à ce moment-là, là, moi, j'exerce mon influence. C'est-à-dire le montage, la structure, le rythme, mais surtout la structure du film dans son ensemble. Évidemment, tout ce que je dis, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas moi qui ai découvert tout ça. Malheureusement, je ne suis pas dans l'époque de la découverte du cinéma. Tout a déjà été mis en évidence par les frères Lumière. Avant moi, il y a eu effectivement des très grands cinéastes. J'en veux pour preuve Artavast Pelechian, qui est toujours vivant et qui a fait un film récemment qui est vraiment exceptionnel, comme tous les films qu'il a fait auparavant. Dziga Vertov et Esther Schub. Donc, en quelque sorte, si vous voulez, je prolonge cette lignée-là si on parle des films d'archives que j'ai montés.
Jean-Luc.
Ce coup de tonnerre, c'est peut-être Jean-Luc Godard qui s'invite dans notre conversation.
On
va rentrer à l'intérieur. Voici réfugié dans le salon de l'hôtel après ce coup de tonnerre godardien et cet orage qui nous est tombé dessus pendant le début de cet entretien. Sergueï Losnitsa, il y a au milieu de votre film ce massacre de Babi Yar. Vous, vous racontez l'avant, vous racontez l'après. C'est le sens de ce contexte qu'il y a dans le titre de votre film, parce que forcément, du massacre même de Babi Yar, il n'y a pas d'image. Est-ce que votre intention avec ce film est, entre autres, que le spectateur voit cette image manquante, se la construise dans son esprit, et essaye de comprendre ce qui s'est passé?
C'est difficile à dire parce qu'en fait, je n'ai pu travailler qu'avec le matériau dont je disposais, ce matériau que j'avais trouvé, et donc je ne peux pas vous parler des images qui n'existent pas, ou en tout cas que, selon moi, n'existent pas, et je ne peux pas vous dire non plus comment je m'en serais passé si je les avais trouvées. Il faut savoir qu'en fait, la quasi-totalité des exécutions n'était pas filmée. Il y a eu une exception à Lepaya, où il y a effectivement l'exécution des Juifs qui a été filmée. Ça dure 2 minutes, cette séquence est proprement stupéfiante, particulièrement choquant, et j'ai rien vu d'analogue jamais. Mais peut-être que vous avez raison, que si je les avais eus, peut-être que ça aurait plus encore démontré la violence que de ne pas les montrer. Et en tout cas, je ne les ai pas eus, moi, pour faire ce film. Et il faut faut savoir également que nous vivons dans un monde où nous sommes plongés toujours dans des images particulièrement terribles, qu'on a accès à ces images particulièrement terribles que nous fournissent les médias et qui influent également sur notre perception.
Quelles questions vous vous posez justement quand vous montrez des images comme celle de ce pogrom, mais il y a aussi en miroir presque l'exécution de criminels de guerre? Il y a des images de cadavres dans votre film. J'imagine qu'on ne les monte pas comme ça facilement. Comment ça se passe pour vous au moment où vous devez les inclure dans votre film, Sergei Losnitsa?
Vous savez, j'ai déjà une certaine expérience. Vous le savez, j'ai tourné un film sur le blocus de Leningrad. J'ai également monté des images dans le cadre de ce blocus de cadavres complètement gelés. En fait, c'est effectivement des thèmes qui me sont proches d'abord, et c'est particulièrement difficile, mais je sais que j'ai déjà en moi un réflexe de défense. Parfois, je reconnais, ça m'arrive d'arrêter le montage d'un film, de reprendre des séquences, de reporter le montage de certaines séquences, donc je les monte dans un temps qui est beaucoup plus long, et puis ensuite je reviens dessus, la séquence du pogrom par exemple, parce que ça laisse sur moi une marque émotionnelle très forte, mais je sais que je dois continuer d'avancer comme ça pour rester ce que j'appellerais correct par rapport à la structure du film. Et je me souviens d'avoir vu un tableau de Géricault avec un panier qui était rempli de têtes de gens guillotinés. Et j'imagine que ça avait dû choquer beaucoup à l'époque, ce tableau-là.
Vous montrez des vivants aussi dans votre film. Et un des grands motifs de votre film, c'est la foule. Est-ce que votre travail consiste aussi à essayer de comprendre et de montrer la logique, si on peut parler de logique, des foules?
Vous savez, nous vivons dans des très grandes villes avec une énorme quantité de gens, des gens qui en fait sont au départ dispersés parce qu'ils sont dans différentes familles, des clans, des groupes, et puis ils finissent par se réunir et s'agglutiner. Et cette agglutination finit par générer une interaction entre ces masses et ces groupes, et dont la première conséquence, notamment quand la civilisation a commencé à se développer, qu'on a construit des routes, qui dit construire des routes, dit se diriger dans d'autres espaces, et ces grands espaces qui sont devenus accessibles grâce aux routes ont également conduit aux guerres. Vous savez, nous vivons dans une civilisation des masses, et quand je parle de masses, c'est pas uniquement des masses physiques, puisqu'aujourd'hui nous vivons également dans des masses virtuelles qui se réunissent virtuellement et qui agissent dans un espace virtuel, et je pense que c'est intéressant justement d'étudier les lois qui régissent ces groupes virtuels réunis entre eux par des symboles. Et quand on regarde justement, qu'on étudie l'ampleur de la vie de la société, on s'aperçoit que cela exclut l'héroïsation, la personnification. Et quand vous regardez, j'ai fait une grande quantité de mes films à ce sujet, on s'aperçoit que on vit à l'intérieur de grands groupes qui sont plongés dans différentes circonstances, et ces circonstances-là, dans ce film-là, c'est la guerre. Et des films ont vu le jour dans la première moitié du XXe siècle. Je pense par exemple à La Grève d'Eisenstein, où le héros justement c'est la masse populaire. Et il y a également les films de Vertov, même si le héros existe, en fait il n'existe que par le reflet de ce qui l'entoure. Dans le film de Vertov, on voit Staline au milieu de la composition du film, et à l'époque Staline est vivant. Et moi, j'ai fait comme une sorte de réponse à Vertov en tournant Funérailles d'État, j'ai pris le contre-pied complet. Je suis dans l'espace complètement opposé, mais les masses se réunissent autour d'un Staline qui, cette fois, est mort. Moi, ce qui me plaît, effectivement, ce sont les films où il n'y a pas de héros, où le héros, c'est la masse, c'est l'événement, c'est l'idée, et je suis en recherche de nouvelles formes de dramaturgie, de manière à pouvoir conserver l'attention du spectateur, construire une entité, une complétude du film, qui puisse mettre en avant la pensée. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, que rien d'autre n'existe, c'est simplement la partie du cinéma qui m'intéresse.
Vous avez en projet une fiction sur les mêmes événements. Est-ce qu'on peut raconter une fiction en se passant de l'individu et précisément en racontant la masse, ou c'est quelque chose qu'on ne peut faire que sous la forme documentaire ?
О, можно, конечно. Но опять-таки Стачка, Эйзенштейн сделал такую картину.
On peut bien sûr regarder, je reprends évidemment l'exemple de la grève d'Eisenstein ou même le fantôme de la liberté où dans chaque séquence vous avez un nouveau héros. Moi j'ai fait un film qui s'appelle Donbass où également dans chaque séquence il y a un nouveau héros. L'important c'est de conserver l'idée et de la développer.
Bruegel.
Bruegel par exemple.
Bosch.
Jérôme Bosch. Tout a existé déjà.
Dans ces masses que vous montrez, Sergueï Losnitsa, il me semble que vous retenez particulièrement, malgré tout, des regards caméra, des personnes qui s'individualisent au milieu de la masse. Est-ce que c'est consciemment que vous avez gardé ces moments où les gens regardent le spectateur ?
Quand il y a un regard caméra, à ce moment-là, on retourne chez Botticelli parce qu'il invite la personne qui regarde le tableau à l'intérieur même du tableau et donc le spectateur devient coparticipant du tableau lui-même. Lors de la Renaissance, on voit la verticalité, l'horizontalité. Néanmoins, la Renaissance a aussi ramené la profondeur, qui est la profondeur qui vient attaquer le spectateur. Et à l'inverse aussi, toujours dans la Renaissance, vous avez des regards depuis le tableau avec des gens qui regardent vers le spectateur, qui font un pas vers le spectateur. Là non plus, donc, j'ai rien découvert.
Sauf que le spectateur en question, qui est donc co-créateur de l'œuvre et qui découvre votre film cette semaine, Sergueï Losnitsa. Ça fait 6 mois qu'il voit des images de guerre dans votre pays, l'Ukraine. Vous, vous aviez terminé ce film bien avant le conflit actuel. Comment est-ce que vous vivez cette percussion imprévue entre des événements d'il y a 80 ans, un film terminé il y a 1 ou 2 ans, et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine ?
Сейчас, когда я смотрю свой фильм,
effectivement, aujourd'hui, quand je vois des images des destructions qu'a commises la Russie sur le territoire ukrainien, sur les villes ukrainiennes, Mélitopol, Mariupol, Kharkov, Kiev, c'est bien évidemment inévitable de penser à cette concomitance. Lorsque les bombardements ont commencé en février, j'ai moi eu l'impression qu'on était renvoyé 80 ans en arrière et qu'on n'avait malheureusement rien fait pour éviter ce renouvellement des événements.
Mais
si on se replonge dans la perspective historique, nous vivons aujourd'hui la prolongation de la Deuxième Guerre mondiale qui avait anéanti un État totalitaire, mais il ne faut pas oublier qu'un autre État totalitaire s'était aussi attribué les lauriers de la victoire et que cet autre État totalitaire a continué de vivre jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas que politique, bien évidemment, parce qu'il y a également la conscience de la population du pays, la Russie en l'occurrence, qui est aussi une conscience totalitaire et autoritaire, et aussi surprenant que ça paraisse. Et je ne dis pas que, bien évidemment, la population dans son ensemble soutient ce qui se passe aujourd'hui quand la Russie attaque l'Ukraine, mais que la population dans son ensemble ne se lève pas contre cela. Et malheureusement, ce qui est une source d'étonnement, mais également de regret, c'est de voir à quel point il n'y a pas eu de protestation importante sur le territoire russe par des citoyens russes qui ont passé sous silence réellement et ont fini par être d'accord avec ce qui se passait sur le territoire ukrainien. D'une manière ou d'une autre, cette guerre va prendre fin parce que toutes les guerres finissent un jour ou l'autre par prendre fin. Mais qu'est-ce qui va arriver avec la conscience de ce peuple ? Et il va falloir évidemment faire la même chose et travailler sur cette conscience-là de la même manière que l'Allemagne l'avait fait avec la dénazification. Sans doute va-t-il falloir travailler sur la dénazification en Russie ou en tout cas, il faut peut-être trouver un autre terme, la décommunisation, la détotalitarisation de la conscience russe. Sinon, la menace restera. Et je me rappelle une phrase que Churchill avait prononcée qui disait que les nouveaux fascistes seraient les antifascistes et il se trouve qu'il avait raison.
Babillard Contexte de Sergueï Losnitsa est en salle depuis mercredi. Merci à Joël Chaperon d'avoir été sa voix française et à notre réalisatrice Anne-Laure Chanel pour avoir si bien rendu l'atmosphère tempétueuse de cet entretien. En parlant de films ukrainiens, on vous recommande aussi, sorti cette semaine, le très beau et puissant 107 Mothers en ukrainien dans le texte de Peter Kerekes, les 107 mères en question, étant les détenues d'une prison maternité d'Odessa qui jouent leur propre rôle dans cette fiction. Vous
écoutez France Culture Plan Large. Pas de journal du cinéma aujourd'hui, hommage à Jean-Luc Godard oblige, mais bel et bien une chronique avec vous, Charlotte Garçon. Il est temps de regarder les actrices.
Regarde. Regarde. Ça me va bien, non?
Non, moi je te préfère avec les cheveux blancs.
Moi je te préfère sans chapeau et sans cigare.
C'est pour faire comme Dean Martin dans Somkem Running.
Oh là là, je me marre.
Quoi?
Je sais pas si tu veux faire comme Dean Martin, mais en tout cas tu fais comme l'âne, Martin.
Qui est-ce?
Tu connais pas les aventures de l'âne Martin?
Non.
Un jour, il était allé à Bagdad pour acheter des tapis volants. Il en trouve un très joli chez un marchand. Alors il s'assoit dessus, et le tapis s'envole pas. Alors le marchand lui dit, c'est pas étonnant. Tu m'écoutes?
Oui.
C'est pas étonnant. Pour que le tapis s'envole, il faut pas penser à un âne. Alors Martin se dit, bon, très bien, il faut pas que je pense à un âne. Et automatiquement, il pensait. Et le tapis s'envolait pas.
Je ne comprends pas avec toi.
C'est exactement ce que je disais.
Ben moi, je comprends pas.
Bon, ça suffit. Tu as fini?
Et non, on le disait tout à l'heure, on n'en a jamais fini avec Jean-Luc Godard. C'est, vous l'aurez peut-être reconnu, un extrait du Mépris, la longue scène dans le grand appartement, un monument dressé à une femme qui n'aime plus, écrit Muriel Joudet dans le chapitre consacré à Brigitte Bardot dans son nouveau livre La seconde femme, ce que les actrices font à la vieillesse, où la critique prolonge une réflexion entamée dans ses livres sur Isabelle Huppert et Jenna Rowlands, dont il avait été rendu compte ici, ou sur John Crawford, dont Muriel Joudet, toujours elle, était venue parler dans Plan Large. Alors évidemment, on peut chipoter, il aurait pu y avoir Catherine Hepburn ou Catherine Deneuve parmi ces actrices qui ont inventé comment vieillir ou pas à l'écran. Mais avec ces 8 portraits de femmes, de la cryogénisée Nicole Kidman à l'aventurière du temps Bette Davis, c'est une réflexion tout à fait passionnante sur le vieillissement, ce que Susan Sontag appelait une crise de l'imagination, que ce livre Muriel Joudet, Charlotte Garçon.
Oui, une femme doit se surveiller sans cesse. L'image qu'elle donne d'elle-même l'accompagne presque toujours. Les femmes s'observent en train d'être regardées. Et cette oppressante dissociation, ce sexisme intégré par nous-mêmes que résume le théoricien John Berger, eh bien Muriel Joudet, qui le cite, propose de ne pas la prendre comme un fardeau, mais aussi comme une joie. La joie d'un niveau de conscience supplémentaire. Et au cinéma, écrit-elle, jouer est intimement lié à l'idée d'accepter de vieillir devant les autres sur grand écran. Et donc, les actrices sont à l'avant-poste de cette sale aventure qu'est la vieillesse. Alors, pourquoi la seconde femme comme titre à cet essai? Eh bien, c'est une phrase que prononce Jenna Rowlands, ou plutôt son personnage d'actrice, Myrtle Gordon, dans Opening Night de John Cassavetes. À un moment de nos vies, la jeunesse meurt et une seconde femme entre en scène. Alors, c'est même littéral à la fin de Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder. La grande star oubliée du muet Gloria Swanson joue Norma Desmond, qui descend l'escalier pour entrer en scène à nouveau en 1950, c'est-à-dire se placer, croit-elle, devant la caméra de Cécile B. 2000 et croit-elle encore performer son comeback. Et on connaît la fin de ce film où elle dit « Je suis prête pour mon gros plan ». Et en lisant La seconde femme, on se dit finalement que chacune des 8 actrices étudiées, à leur manière, se prépare pour leur gros plan final, soit en incarnant une libido complètement intarissable, comme Mae West, qui, à 80 ans, va aller remonter sur scène à Las Vegas avec des stripteaseurs, soit en devenant des figures quasiment transhumaines, à force de retravailler leur peau, comme Nicole Kidman, vous le disiez, qui semble rajeunir à chaque nouveau film, et chez qui, écrit Muriel Joudet, le culte de la correction fait récit. Le livre, c'est vrai, apporte aussi un éclairage nouveau sur Brigitte Bardot, hein, qui est complètement paradoxale comme actrice, puisqu'elle est complètement exploitée dès son plus jeune âge comme un objet sexuel dans les films des années 50. Mais l'hypothèse de Joudet, c'est qu'en fait, elle ne s'est jamais laissée assimiler par la fiction. Par exemple, dans « Et Dieu créa la femme », où elle est une espèce de poupée sexuelle, eh bien, en fait, elle n'arrête pas de sortir du champ. Godard a très bien saisi cette capacité de Bardot à s'absenter, on l'entendait. Dans Le Mépris, dit l'autrice, il déprogramme Bardot. Il la filme en train d'oublier sa fonction, en train d'oublier les gestes et les mots caressants de la gentille petite française. Donc, l'histoire de Brigitte Bardot, ce serait une évasion, hein, quand elle arrête le cinéma et elle donne sa vieillesse à la cause animale via des apparitions télévisées. À elle, écrit Joudet, désormais d'exercer le mauvais génie des vieilles, cette magie noire qui, parce que le regard des hommes ne structure plus leur choix, autorise tout. Mais le plus beau cas du livre, ce sont cependant ceux d'actrices, les plus beaux cas, qui savent dès leur jeune âge que, en fait, elles contiennent déjà la seconde femme qu'elles deviendront. Par exemple, Meryl Streep, qui raconte la naissance de sa vocation de comédienne à 9 ans, quand elle dessine sur son visage au crayon les rides qu'elle a vues sur le visage de sa grand-mère et qu'elle ressent une espèce de grande joie de pouvoir être sa grand-mère. Mais la championne des vieilles peaux, hein, vieille peau, l'expression vient d'elle, c'est sans conteste Bette Davis dans tous ses rôles, que ce soit la vipère, le trop méconnu Une femme cherche son destin ou bien Ève de Mankiewicz. Bette Davis laisse transparaître une sorte de sagesse, à savoir que la rivale amoureuse ou la sœur qui a mieux réussi que soi ou la jeunesse qui va prendre votre place, eh bien, ce ne sont pas des autres, mais une possible version de soi. Refusant les options étriquées qu'on offre aux actrices, déni, crainte, Davis a inventé sa propre attitude face à l'âge. Ne pas attendre d'être vieille pour jouer sa vieillesse, écrit Muriel Joudet. Adopter la stratégie du grand guignol. Hein, pensez-y, mesdames. Bien sûr, on pense à « Qu'est-il arrivé à Baby Jane » de Robert Aldrich, où Davis joue une sorte de Shirley Temple sexagénaire qui veut reprendre la chanson et qui se travestit en petite fille. Attention, c'est son personnage qui joue les petites filles. Mais l'actrice, elle, se déguise en vieille, déguisée en jeune. Vous suivez ?
Je saisis.
Voilà. Donc Bette Davis, comme tous les acteurs de génie, prend ainsi la caméra pour ce qu'elle est ontologiquement. Non pas un miroir sublimateur ou qui pourrait masquer le vieillissement, mais une machine à enregistrer la mort au travail. On pourrait dire comme Brigitte Bardot dans Le Mépris, « Et mes rides, tu les aimes, mes rides ?» Daddy, we miss you and wish you were with us to love. Instead of a stamp, I put kisses. The postman says that's best to do. I've written a letter to Daddy saying
merci Charlotte Garçon. Vieillir, c'est pas pour les chochottes, comme disait Bette Davis. La seconde femme de Muriel Joudet, c'est chez Premier Parallèle. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Jordan Fuentes et Virginie Lorda pour l'entretien avec Sergueï Loznitsa. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel. I've written a